Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. La Cinémathèque française met à l'honneur en ce moment Bruno Nutten en tant que directeur de la photo et en tant que metteur en scène. Bruno Nutten, témoin et acteur privilégié du meilleur du cinéma français des années 70, 80 et 90, est notre invité ce matin. Et le réveil culturel, c'est tous les matins tôt à la radio ou quand vous voulez en passant par l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. Coordination, Corinne Amar. Les réseaux sociaux sont animés par Maël Ray. À la réalisation, Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin, Alain Joubert.
Le réveil culturel, mercredi, cinéma.
Bonjour Bruno Nutten.
Bonjour.
La Cinémathèque vous rend hommage avec une riche rétrospective jusqu'au 3 avril. D'ailleurs, ce samedi 30 mars à 14h30, vous allez donner une leçon de cinéma, Bruno Nutten par Bruno Nutten. Ainsi, la Cinémathèque française à Paris-Bercy salue votre travail de chef opérateur majeur du cinéma français de la fin du XXe siècle. Car même si vous avez aussi réalisé quelques films, dont Camille Claudel, vous vous présentez d'abord comme directeur de la photo.
Enfin, je me présente d'abord comme un amateur. Ce qui est un statut que je revendique absolument et ce qui a été ma façon d'aborder ce métier depuis toujours. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les grands cinéastes, les grands chefs opérateurs. Peu à peu, j'ai essayé de ressembler un tout petit peu à certains directeurs de la photographie puisque j'ai pensé que c'était un métier beaucoup plus accessible pour principalement vivre au quotidien que celui de metteur en scène. Et donc, ce statut d'amateur me permet de garder, disons, une certaine distance et une certaine modestie par rapport au travail
que j'ai fait. Qu'est-ce que vous entendez par amateur artisan, j'aurais compris, mais amateur, vous voulez dire quoi par là, Bruno?
Amateur, c'est que je me sens absolument pas un professionnel du cinéma et je ne me suis jamais senti comme ça.
Même si vous avez fait une école pour ça?
J'ai pas fait d'école, en fait. J'ai commencé une école en Belgique.
À Bruxelles, ouais.
Et je suis resté pendant un an. Et j'ai dû rentrer en France pour me présenter à l'examen de sortie de l'école des techniciens français, puisqu'à l'époque, il fallait passer par le BTS pour pouvoir avoir le droit de travailler. Il fallait avoir une carte professionnelle, ce qui a disparu, je crois. Donc, j'ai fait des études très courtes, en fait. Et je suis très autodidacte, au fond. Et je le suis resté, d'ailleurs. J'ai toujours aimé cette espèce de bricolage des autodidactes et cette façon qu'on peut avoir de trouver des informations à gauche et à droite et d'en faire le tri ou l'amalgame, si on veut, pour pouvoir trouver soi-même des solutions à des problèmes.
Vous avez aimé énormément le cinéma, mais en son siècle, c'est-à-dire au siècle dernier, puisque vous avez décidé d'arrêter tout.
J'ai tout arrêté. Non, de toute façon, j'ai toujours...
En l'an 2000, c'est ça? Vous avez réalisé quand même un film que vous avez commandé, notre défunt ami Pierre Chevalier.
Absolument.
Pour Arte, et c'était en 2002, et puis ensuite, vous avez décidé...
Non, c'était 2001, ça.
2001,
enfin, il est sorti en 2002, peut-être. C'était 2001, parce que j'ai tourné pendant le...
Le 11 septembre, je suppose.
Le 11 septembre, voilà. J'ai travaillé très peu, enfin, j'ai travaillé énormément dans des temps très courts, quoi. Et ma vie est bizarrement structurée par période de 15 ans. Donc, je vous passe les 15 premières. À partir de 25 à 40 ans, j'ai fait de la prise de vue. J'ai fait environ, je sais pas, 35 ou 40 films, je sais pas. Donc, j'ai eu la chance de travailler beaucoup. Et j'ai arrêté en 85, quand j'avais 40 ans. Et là, j'ai tenté de faire de la mise en scène pendant une quinzaine d'années aussi. Et puis, un jour, j'ai plus eu envie. Et ça, c'était juste après le 11 septembre, pendant le tournage du film auquel vous faisiez allusion, qui s'appelle Jim la nuit, que j'avais tourné pour Arte et Pierre Chevalier. Après, j'ai fait 15 ans de vie ailleurs, autrement, sur d'autres choses que j'avais pas eu le temps de fréquenter plus tôt.
Mais là, le divorce est consommé avec le cinéma, mais pourquoi cette décision, Bruno Nutten?
Oh, c'est un assemblage de beaucoup de paramètres, en fait, qui sont principalement, et je reviens à mon histoire d'amateur, c'est que tout à coup, à force d'être un amateur, on finit par être un amateur chevronné, éclairé, et on finit par vous considérer comme un professionnel. Donc on s'adresse à vous comme à un professionnel, même si vous ne l'êtes pas. Et les demandes sont d'un ordre beaucoup moins affectif, en fait. C'est-à-dire que on est amené à faire un travail, à le faire bien, mais on vous demande pas d'être... on vous aime pas forcément, on demande pas que vous aimiez les gens. Vous faites votre boulot et vous le faites bien.
Et ça,
surtout les techniciens.
Et ça, vous avez refusé de le faire ?
Ça m'amusait plus du tout. Ça m'amusait plus du tout. Donc c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer, d'ailleurs. Alors, pas totalement m'ennuyer, parce que moi, je m'intéressais à mon travail, enfin, à la photo, parce que... Le grand problème, c'est le manque d'imagination dans ces cas-là. C'est qu'on vous appelle toujours pour des choses que vous avez déjà faites. Du genre, si tu pouvais me refaire le jaune pâle que tu avais fait dans tel film ou le bleu foncé que tu avais fait dans un autre, ce serait bien. Donc, il y a un petit manque d'imagination de la part des gens qui vous demandent. Mais c'est légitime. Hein, ils se réfèrent à des choses qui existent. Et moi, j'avais envie de continuer à chercher. Et ça s'est de moins en moins proposé. Et c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer un peu, et surtout à m'intéresser plus aux acteurs qu'à mon travail, quoi. Mmh. Parce que j'ai toujours eu une vraie curiosité pour les acteurs.
Bruno Hutel, est-ce que vous avez l'impression, moi je me suis dit que vous avez quitté le cinéma quand vous êtes rendu compte que votre métier de chef opérateur ou directeur de la photo commençait à disparaître. Je m'explique, à l'époque de la pellicule argentique, le travail du chef op était personnalisé. Hein. Il fallait s'occuper de l'éclairage, du cadre, le rendu des couleurs. Tout cela dépendait du chef opérateur et ce travail était donc très personnel. Mais aujourd'hui, avec le cinéma numérique, où on peut voir l'image au tournage et surtout avec toutes les possibilités de la post-production, est-ce que vous vous êtes dit peut-être que mon métier disparu?
Ah, pas du tout, alors. Pas du tout. D'autant que le numérique est arrivé après. Enfin, il y avait les balbutiements du numérique à l'époque. On commençait à avoir des retours vidéo, des choses comme ça, mais quand j'ai arrêté, c'était absolument pas dans les mœurs du cinéma. On pouvait pas ou difficilement imaginer que l'argentique disparaîtrait aussi rapidement, vu que le numérique à l'époque était pas vraiment compétitif en termes de qualité. Donc c'est pas du tout la raison. Et d'ailleurs, depuis, moi, puisque maintenant je fais beaucoup de photographies, pas de cinéma, mais des photographies pour moi-même, et que je fais ça en numérique, j'adore le numérique. Je pense que vous avez un peu tort de penser que ça a fait disparaître les chefs opérateurs. Au contraire, je trouve que des chefs opérateurs d'aujourd'hui qui travaillent sur du numérique et qui arrivent à travers leur numérique à trouver un style personnel sont des gens extrêmement forts, parce que le système numérique est prodigieusement intelligent et performant. Donc il faut arriver...
Alors c'est quoi la différence entre ce que vous avez connu à votre époque, c'est-à-dire avant le numérique, et l'âge d'aujourd'hui?
La grande différence, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait. Non seulement on ne voyait pas ce qu'on faisait, mais les caméras étaient aveugles comme des taupes. C'est-à-dire que la pellicule était pas sensible, les caméras avaient des ouvertures quand j'ai commencé.
Et toute la responsabilité reposait sur vos épaules et votre regard, non ?
C'est pas tant une responsabilité qu'il fallait construire simplement de la lumière pour qu'on puisse y voir. Il n'était pas question de pas éclairer, on ne voyait pas, quoi. Donc c'était assez fantastique, mais ça représentait beaucoup de travail. Mais je pense que le travail sur le numérique aujourd'hui qui voit trop est aussi une autre façon de considérer les choses. Et c'est un véritable handicap d'y voir trop pour faire du cinéma, à mon sens.
Bruno Hutel, on va parler de quelques films qui ont marqué votre carrière. C'est un choix subjectif. Et on va commencer par celui-ci qui me tient particulièrement à cœur.
Messieurs, je vous en prie. Nous connaissons l'assassin. Enfin, mademoiselle l'a vu. Et il ne vous ressemble pas, n'est-ce pas, mademoiselle?
Oui, il pourrait ressembler à tout le monde. Je croyais que le dessin était fidèle, mais je me suis rendu compte que tous les portraits robots se ressemblent.
Mademoiselle, excusez-moi d'être indiscret, mais qu'est-ce que vous faites ici exactement?
On me montre des types toutes les heures, des suspects qu'on ramasse aux quatre coins de la ville. Alors je les regarde. Non, c'est pas ça, l'assassin. C'est pas ça.
C'était en 1975. On reconnaît bien sûr la voix d'Isabelle Adjani, mais quelle distribution dans ce film d'André Téchiné, Barocco. Adjani, bien sûr, mais aussi Depardieu, Marie-France Pizier, Jean-Claude Brialy, Julien Guillemard, Hélène Surgère, Claude Brasseur, Jean-François Stévenin, la chanteuse Marie-France. Et puis vous, Bruno Hutel, vous, face à Isabelle Adjani, c'est le début d'une histoire. Est-ce qu'à un certain moment, on oublie d'être technicien et on se laisse emporter par une émotion, par les émotions, bien entendu? Je vous pose cette question des années plus tard, parce que on sait que ensuite vous avez formé un couple avec Isabelle Adjani, mais comment s'est fait ce tournage?
Ça correspondait à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai jamais pu travailler hors de l'affect. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aimer, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, j'ai besoin de ça pour travailler. Donc j'ai peu à peu constitué déjà une équipe d'hommes, alors c'était pas des histoires d'amour, c'est des histoires d'amitié, qui m'accompagnaient dans mon travail, comme assistant, comme machiniste, comme électricien. Et on a formé une vraie famille. Alors les familles, c'est compliqué, hein, parce que dès l'instant où l'affect est là, parfois dans le travail, ça rend les choses un peu compliquées. Par contre, dans d'autres moments du travail, ça simplifie énormément les choses. D'abord parce que les gens vous connaissent, et ensuite parce qu'on peut demander des choses impossibles à des amis, ce qu'on peut pas forcément demander à des gens qui ne le sont pas.
Ça, que vous demandez à votre équipe, Bruno Nutten, c'est ce que le réalisateur veut obtenir, ou c'est vous qui prenez cette initiative?
Ah, c'est moi. C'est moi. Au hasard des films que j'ai fait précédemment, enfin avant Barocco par exemple, j'ai rencontré de ci, de là, des gens que j'ai appréciés et que j'ai engagés dans mon équipe et qui sont restés longtemps dans mon équipe. La plupart sont restés jusqu'au bout. Ça a été pour moi, Barocco, d'abord l'aventure d'une équipe d'amis. Et c'est greffé sur cette aventure d'amitié, une aventure d'amour. Mais ça n'a pas empêché, je suis resté à ma place, hein, c'est pas du tout, c'est simplement que...
Mais on filme de la même manière quelqu'un quand on est amoureux
de
cette personne?
J'ai toujours été amoureux des acteurs que j'ai pu filmer, même si je l'aurais jamais dit, et même s'il n'était pas question d'être amoureux de tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que comme j'étais principalement cadreur aussi, enfin je faisais le cadre et la lumière, j'ai eu des rapports comme ça dans le non-dit, hein. Entre des acteurs, on est si près de l'acteur quand on le cadre, on l'accompagne tellement précisément, c'est-à-dire qu'à son moindre frémissement, il faut partir avec lui, que j'ai appris à les voir travailler aussi, j'ai appris à les voir avant les prises, quand on a déjà l'œil dans l'œilleton mais que l'acteur n'a pas commencé à jouer, et surtout après.
Et que faites-vous des indications du metteur en scène?
Les indications du metteur en scène, généralement, sont des choses qu'on n'entend pas, dans la mesure où les indications à l'adresse des acteurs se passent soit en répétition, soit dans le creux de l'oreille, soit derrière une feuille de décor, mais rarement à vue quand on tourne. Ça arrive, hein, entre les prises, qu'un metteur en scène fasse une rectification. L'indication du metteur en scène, c'est déjà sa mise en place dans un décor, c'est de quel point de vue il se place, comment on va filmer ça, comment on va le découper. Dès l'instant où il a inscrit tout ça, le travail part, la préparation des plans se fait, et après, il n'intervient plus.
Toi et moi, c'est pas pareil. Nous sommes deux révoltes de la nature, nous sommes de la même race.
Je suis Camille Claudel, et si vous l'ignorez, je saurais vous l'apprendre.
Quel orgueil!
Là où elle est violente, ce n'est que parce qu'elle est passionnée.
Ma sœur est un mystère en pleine lumière.
Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire.
Et quand vous passez à la réalisation, Bruno Nutten, par exemple, pour Camille Claudel, première réalisation, qu'est-ce qui change fondamentalement dans votre travail d'homme de cinéma, vous qui étiez avant, après, chef opérateur, oui, tout, c'est-à-dire?
Tout change. Camille Claudel, en soi, c'est quand même au départ une commande, hein, puisque c'est Isabelle Adjani qui m'a proposé de faire ça. C'est vrai que moi, j'arrivais vraiment dans un moment où j'avais de moins en moins de plaisir dans mon travail, donc ça tombait pile au bon moment. Mais entre le moment de la proposition de ce projet et son exécution, il a fallu que je m'approprie absolument le film pour le fabriquer, mais déjà antérieurement au film, l'histoire de Camille Claudel, etc. C'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire le scénario avec une amie, et puis finalement tout seul, et puis de nouveau avec cette amie, etc. Et en faisant les recherches sur le personnage, je me suis approprié peu à peu le film. C'est-à-dire que finalement, j'en savais plus que les acteurs qui seraient convoqués, y compris plus qu'Isabelle Adjani dans le stade de l'écriture. au-delà de ça, Isabelle s'est intéressée aussi, bien sûr, au personnage, mais beaucoup plus tard, parce que c'est sa façon de travailler. Elle travaillait toujours en intégrant énormément d'informations dans les quelques jours qui précédaient son interprétation. C'était sa façon de faire.
Ça vous a rapproché des comédiens, le fait d'être metteur en scène, ou le fait d'être metteur en scène, c'était diriger toute une équipe?
Bon, là, je n'ai pris, avec moi que des gens que j'admirais et des gens que je connaissais, parce que Gérard Depardieu, je l'ai connu longtemps avant Isabelle, quelques années avant. Et c'est vraiment un homme avec qui j'ai vraiment sympathisé, que j'ai accompagné longtemps dans son travail, sur beaucoup de films, très différents. Et il était pour moi un rodin absolument idéal, de toute façon, ne serait-ce que physiquement. Et quand je terminais l'image de Jean de Florette et Manon des Sources, comme ils jouaient un rôle dans le film, et qu'Isabelle m'avait déjà fait la proposition de Camille Claudel, je lui ai immédiatement parlé de Rodin, et il a semblé intéressé. Bon, après, ça a été plus compliqué, parce qu'il était engagé ailleurs, etc. Mais ça, c'est le jeu du cinéma. Et Isabelle était absolument d'accord avec moi pour cette idée de Rodin. Donc j'ai réuni, en fait, ces deux personnages que j'avais connus sur le film d'André Téchiné, Barocco. Je les ai remis ensemble. Et moi, ce que j'ai toujours adoré, c'est les films où Gérard est amoureux. La femme d'à côté, il y avait Dites-lui que je l'aime de Claude Miller. Mais c'est toujours des amours un peu tordus. Mais il y a Cyrano, évidemment, mais Cyrano, c'est après Claudel. Donc j'avais envie de voir Gérard amoureux. Et là, en plus, c'est un double regard, parce que c'est un sculpteur amoureux du travail de l'autre sculpteur et amoureux de la femme dont il va faire aussi son modèle et son exécutante. Je trouvais que c'était une histoire assez belle qui les concernait bien tous les deux.
Mais c'est la première fois que vous passez à la réalisation, Bruno Nutten.
Oui, c'était un projet extrêmement lourd à porter. Mais je sais pas, j'y étais avec une espèce d'enthousiasme et de légèreté qu'aujourd'hui je trouve invraisemblable, puisque je la trouve très naïve. Donc j'ai pris aussi des mauvais coups quand on est trop naïf. Mais ça me donnait une force, je pense que ça m'a donné beaucoup de force en fait.
C'était il y a 30 ans, c'était en 1988. Et maintenant avec le recul, Bruno Nutten, vous préférez faire un film en tant que metteur en scène, ou vous avez pris plus de plaisir en tant que metteur en scène ou en tant que chef-op?
Enfin, c'est pas du tout le même plaisir si on peut en prendre. Disons que c'est plus simple de prendre du plaisir comme directeur de la photographie que comme metteur en scène, puisque metteur en scène, on est assailli de questions dont on ne connaît pas la réponse. Il faut plaire au producteur. Enfin, c'est tout à fait un autre engagement, et il faut savoir vendre son film. Chose à laquelle j'étais absolument pas préparé. Heureusement, bon, Isabelle a pris la relève, elle l'a fait à ma place, mais c'est très compliqué et ça ne me ressemble pas du tout. Donc en fait, je pourrais dire, en étant honnête, que j'ai mieux trouvé ma place comme directeur de la photographie que comme metteur en scène, qui est une place un peu compliquée à prendre. Sauf si soi-même on cadre les acteurs ou soi-même on fait la lumière, mais en même temps c'est trop de travail, donc on peut difficilement faire les deux à la fois. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui cadrent, mais au-delà du cadre, on peut pas faire la lumière en plus.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de son nom.
Musique, Carlos D'Alessio. Texte, Marguerite Duras. Interprétation, Jeanne Moreau. En 1975, Marguerite Duras tourne au cinéma une adaptation de son roman, sa pièce de théâtre India Song. Et vous êtes là, Bruno Nutten, à l'image. Et là, en l'occurrence, Marguerite Duras, qui n'est pas metteur en scène, elle vous fait entièrement confiance pour l'adaptation cinématographique.
Ah bah, elle a mis du temps à faire confiance parce qu'elle m'a fait. Je l'ai rencontrée quand j'étais plus jeune et elle cherchait un jeune opérateur pour un film qui s'appelait Jaune le soleil. Et puis elle m'a dit que j'étais trop jeune. Donc elle m'a dit, trouve un chef opérateur qui pourra t'employer comme assistant. Et c'était Ricardo Aronovitch pour ce film-là. Et puis le suivant, c'était Nathalie Granger. Elle a recommencé le même numéro en disant, non, t'es toujours trop jeune, mais trouve un autre chef opérateur avec qui tu t'entends bien et qui pourrait faire le film. Donc j'ai fait aussi comme assistant Nathalie Granger. Et là, elle m'a dit, c'est ton tour. Et on a fait ensemble un autre film qui s'appelait La femme du Gange avant India Song. Et India Song, elle m'a totalement fait confiance, sauf qu'elle avait une façon d'expliquer la lumière qui était assez étrange, une façon un peu littéraire, enfin à sa façon à elle, quoi. Donc il fallait interpréter ses propos pour lui donner satisfaction et pour qu'elle soit heureuse. Cela dit, Marguerite a toujours été heureuse de voir des images qu'elle avait faites. Elle était au spectacle dès l'instant où elle allait voir les rushs de ses propres films. Donc c'était très très charmant tout ça.
Et en l'occurrence, vos images, Bruno Nutten.
À cet instant-là, oui, il y a eu d'autres chefs opérateurs qui ont travaillé avec elle et je pense qu'elle était aussi ravie. C'était une vraie rencontre avec Marguerite.
Il y avait des disputes avec Marguerite Duras ? Des incompréhensions ?
Des incompréhensions quelquefois, mais enfin des disputes jamais. Non, c'était vraiment. Non, elle disait par exemple, il faut que Delphine soit dans une flaque d'ombre. Alors, on a tendance à se dire, bon, faut qu'elle soit dans le noir. Et en fait, non, il fallait l'éclairer pour qu'il y ait de l'ombre sous elle. Enfin bon, des choses comme ça.
Dis-toi, Bruno Nutten, pour terminer cette dispute avec Jean-Luc Godard. Durant le tournage de Détective, cette dispute que tout le monde connaît parce qu'elle a été filmée
par un caméraman qui était là sur le plateau et qui devait faire un making of.
Et ça s'est retrouvé. Zine, légendaire, cinéma, c'est comme ça.
Oui, ils s'en sont servis à mon avis de manière un petit peu tendancieuse, dans la mesure où c'est tronqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le début et la fin.
Et là, on vous voit dans une posture délicate puisque Jean-Luc Godard vous engueule. Extrait.
Oui, eh ben je regrette effectivement qu'un caméraman ou qu'un opérateur n'ait pas à un moment inventé comme un chanteur invente une chanson. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on peut savoir effectivement quand on se fait insulter par nanar quels sont les risques qu'il prend sur un film. S'ils veulent pas de risques, il n'en prend pas. Ça m'est égal, mais il n'a pas besoin de faire la gueule non plus. Il y a assez de chômeurs en France.
Je sais pas ce qu'il veut dire par là, vous avez une drôle de relation avec le soleil. Mais que dit cette dispute?
Mais c'est ridicule, c'est une dispute qu'il a provoquée d'une manière totalement arbitraire. En plus, il s'est pas adressé à la bonne personne, Je pense que Godard était dans un moment un peu difficile pour lui, en tant que créateur.
Détective, c'est en 85, il s'est sorti en 85.
Et je pense que, je sais pas, il avait besoin de déverser l'inconfort dans lequel il était lui-même, en tant que créateur,
Mais là, en l'occurrence, vous n'étiez pas d'accord à propos de la lumière
On n'était pas d'accord par rapport à rien du tout. J'ai simplement dit, Johnny Hallyday était devant une fenêtre en plein été, éclairé par une grande façade blanche qui était totalement surexposée. Godard voulait pas que j'éclaire ou alors que je ne mette qu'une lampe à l'intérieur. Je pouvais pas faire la balance entre l'extérieur et l'intérieur. Donc je lui ai simplement demandé, vous préférez qu'on pose plutôt pour l'extérieur, l'intérieur ou entre les deux? Et là-dessus, il a dit, voilà. Vous comprenez rien à ce que je fais. Vous n'avez pas lu le scénario. Il n'y avait pas de scénario. Et puis il a fait déclencher la caméra. C'est ce qu'on voit dans le truc, quoi. En plus, il me parle des inventeurs de la Reflex. Alors que ce sont des gens que j'ai voulu rencontrer, mais quelques années avant. Un était mort, mais l'autre était encore vivant. Même au moment où on a tourné ce film. Parce que j'admirais beaucoup leur invention. Alors quand il dit qu'on s'intéresse pas aux gens qui ont inventé, enfin c'est n'importe quoi. Il est tombé sur la mauvaise personne en plus. En plus c'est pas lui qui m'a choisi, je sais pas ce que je foutais là. J'ai eu le malheur de dire que j'étais content d'être là et de travailler pour lui. Et à partir de là, ça a été un cauchemar. Jamais il faut dire ça à Jean-Luc Godard. Voilà. Mais bon, La suite était plutôt triste puisque tout le monde est parti. Il s'est fait insulter, toute l'équipe a quitté le plateau. Ils en avaient marre de ce genre d'altercation. Et je me suis retrouvé seul avec lui. Il était en larmes au bord d'une baignoire dans une salle de bain, à dire qu'on comprenait rien à sa solitude, enfin bon. Cela dit, la solitude du metteur en scène, c'est une chose que j'ai découverte après, moi-même. Et c'est vrai que c'est pas marrant.
Bruno Nutten, merci d'être passé ce matin.
Je vous en prie.
La Cinémathèque française vous rend hommage, même si je vous n'aimais pas ce mot.
Pas du tout. Non.
Mais c'est une rétrospective de votre travail. Vous êtes plutôt fier d'avoir fait les films de Téchiné, d'avoir rencontré Isabelle Adjani, d'avoir fait Camille Claudel, ou d'être celui qui a fait photo des valseuses de Blier, s'il fallait retenir.
Je suis fier d'avoir vu des gens, d'avoir rencontré des gens exceptionnels et d'avoir été leur ami ou d'être resté éventuellement. Voilà, c'est tout.
Merci pour votre générosité. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Sur France Culture.